Vous écoutez France Culture.
Monsieur Gouraïev.
Je ne dirais pas que mon départ est aussi important que les autres choses que vous avez mentionnées.
Trop modeste.
Mais j'ai vu dans mon cas particulier que la Russie n'était pas un état de droit et les actions des enquêteurs et des juges sont très très différentes de ce que dit la législation et la constitution russe. Donc c'est une petite démonstration simplement qui pour moi n'est pas petite évidemment, mais pour les investisseurs étrangers et pour les investisseurs russes, eux font face à ça. Et vous avez dit vous avez mentionné la fuite des capitaux à juste titre. Et bien sûr, la Russie croit toujours, le budget est équilibré. Et pourtant, l'argent quitte la Russie parce que les investisseurs ne croient plus à la loi en Russie. Et donc, ils n'arrivent pas à arrêter la corruption. Et ça se traduit par la fuite des capitaux et par les évaluations qui sont très très basses sur le marché des actions. Vous avez mentionné les autres BRICS, vous avez mentionné les marchés émergents avec tous les problèmes qu'il y a au Brésil, mais le Brésil et les autres pays valent trois fois plus que la Russie de ce point de vue-là. Les investisseurs cherchent plutôt à investir dans un pays qui croit de façon plus saine que la Russie, c'est-à-dire le Brésil.
Brice Couturier.
Alors, il y a un problème qui nous intéresse tous, c'est que parmi les BRICS, vous avez deux catégories. Il y en a qui sont des démocraties, c'est l'Inde et le Brésil, et vous en avez qui sont des régimes autoritaires, voire dictatoriaux, comme la Chine et la Russie. Or, le monde entier se demande quel est le modèle qui va l'emporter parmi eux. Pendant longtemps, on a pu avoir l'impression que le modèle autoritaire était celui qui marchait le mieux. Et ça avait un impact énorme sur le tiers monde, sur le reste des pays émergents. Aujourd'hui, on a l'impression que la croissance chinoise est en panne grave, qu'il y a des bulles qui sont en train d'éclater là-bas. Et on a l'impression que le système autoritaire russe, certes, assure la stabilité, mais n'assure pas l'état de droit dont les investisseurs ont besoin pour être sûrs que la législation fiscale ne va pas être modifiée brutalement, que leurs investissements sont effectivement garantis par la loi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une revanche de la démocratie en ce moment ?
Sergueï Gouraïev.
This is a big question.
C'est une vaste question.
Mais
je crois que tout ça est démesuré. Les gens qui quittent leur pays vont vers des pays démocratiques et pas vers des pays autoritaires. Vous avez parlé de Russes qui partent. Les Russes, ils vont en Chine.
Monsieur Snowden, lui, souhaite apparemment venir en Russie, rester en Russie, monsieur Gouraïev.
Monsieur Snowden a des circonstances différentes. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de choix. Et on ne sait pas où il est, en tout cas. Et Monsieur Depardieu, lui, il est parti, il est venu vers la Russie. Ouais. Mais en général, les gens vont vers des pays démocratiques parce que parfois les démocraties ne croissent pas rapidement, mais les démocraties offrent des occasions pour tout type d'investisseurs, pour des gens qui ont beaucoup d'aspirations économiques de tout ordre. Et on voit aussi qu'en Chine, même le gouvernement est tout à fait conscient que c'est le point de passage obligé. Regardez, il y a un rapport sur la Chine en 2030 qui a été fait avec la Banque mondiale et la Chine est absolument consciente du fait que cette transformation et ils doivent s'y préparer. Vous avez mentionné la classe moyenne. La classe moyenne va croître et va demander plus de transparence. Et c'est pas comme... Le Brésil ne va pas devenir la Chine, mais la Chine va se européaniser.
Let's hope.
Agnès Bedassi-Kerry.
Dans les BRICS qu'a mentionné Brice Couturier...
Il ne faut pas oublier le S de South Africa.
Oui, South Africa.
Qui est aussi une démocratie.
La Russie occupe une position particulière à deux points de vue. La première, c'est la présence et la part très importante du pétrole et du gaz dans l'économie, qui entraîne, c'est bien connu, une difficulté à diversifier l'économie et un terrain très favorable à la corruption. Et la deuxième difficulté, c'est quand même la démographie russe, qui est là, le contraste avec l'Égypte est saisissant. Et donc, est-ce que la combinaison de ces deux difficultés ne va pas retarder très fortement les changements ?
Donc, la démographie russe,
une démographie, enfin un vieillissement très fort de la population, un ralentissement, une baisse de la population, et donc les forces manifestantes sont en général plutôt jeunes. Et là, en Russie, il y a beau y avoir une classe moyenne, elle n'est pas très jeune.
Sergueï Gouriev.
Yeah, this is very important.
Oui, c'est très important. Oui, je suis d'accord avec le premier facteur. En ce qui concerne le second facteur, dans le printemps arabe, une grande proportion de jeunes et de chômeurs qui n'avaient aucune opportunité sous l'ancien régime, ont joué un rôle important. Mais il ne faut pas trop exagérer le rôle de ces éléments, parce que les changements se produisent dans les capitales, et les jeunes viennent vers les capitales où se trouvent les universités. Et donc Moscou possède une population jeune, éduquée, de classe moyenne, qui réclame le changement. Je dirais qu'une autre différence entre Moscou et le Caire, c'est que la classe moyenne à Moscou est mieux éduqués et beaucoup plus riches. Ces gens ont plus d'occasions de quitter la Russie pour aller en Europe plutôt que ceux qui se trouvent au Caire. C'est plus facile pour les Russes de s'intégrer en Europe de l'Est. Et la stratégie du pouvoir, c'est de dire « ne manifestez pas, s'il vous plaît, prenez vos valises. Et soit taisez-vous, soit allez-vous-en, comme M. Poutine l'a dit, comme vous l'avez dit précédemment. Il a dit, vous n'aimez pas rester ici, ben allez-vous-en. Mais ne manifestez pas, allez-vous-en.
Brice Couturier.
Pour revenir aux BRICS et aux différences qui existent entre eux, vous avez une croissance russe qui est fondée essentiellement sur la consommation intérieure. C'est aussi le cas du modèle brésilien. Vous avez un modèle chinois qui est au contraire basé sur l'exportation et sur le sacrifice de la consommation intérieure par sa population. Quel est celui qui fonctionne le mieux ? Est-ce qu'on n'atteint pas, dans certains cas, les limites du modèle ? Dans le cas brésilien, ça paraît évident. Est-ce que dans le cas russe, il n'y a pas aussi un problème ?
Sergueï Gouriev.
This is a very good question,
c'est une excellente question, mais la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend du stade de développement. Donc, quand la Chine était pauvre, c'était l'exportation. Maintenant, si vous lisez le plan quinquennal, vous voyez que la Chine passe de l'exportation basée sur un taux de travail très, enfin des coûts du travail très faibles, et passe à une consommation interne. Et un autre facteur important, c'est le développement financier. Si vous avez des prêts à la consommation, ça soutient l'économie. C'est la raison pour laquelle l'économie était tellement forte dans les années passées en Russie. Ça vient à un terme parce que le financement, ou plutôt le développement financier a atteint un état, un niveau. En fait, les consommateurs ont beaucoup de biens de consommation et la croissance additionnelle est très limitée.
Alors, bien que vous soyez sans doute diplomatiquement attentif à ce que vous allez dire sur l'Europe et sur la France, qui vous accueille, Sergueï Gouriev, on a envie de vous demander ce que vous pensez tout de même de la situation européenne, voire française. Après tout, le libéral que vous êtes nous intéresse sur ces questions. On a vu la démission notamment du ministre des Finances portugais, faisant même une sorte de mea culpa, genou en terre, disant « mon plan d'austérité ». Vous aviez raison, les gars, ça marche pas, je m'en vais. Donc il est parti. On constate que ça et là, plusieurs, notamment tenant d'une austérité imposée par une troïka européenne, me semble remettre un peu en doute cela. Et vous savez que le débat fait un peu rage en France entre ceux qui disent qu'au fond, François Hollande mènerait une politique d'austérité qui ne dit pas son nom, mais qui ne pourrait pas porter les effets que l'on aimerait qu'elle porte. Enfin, quel est votre avis, votre commentaire sur la situation européenne, selon vous ? Est-elle en grand danger encore de banqueroute, ou et quid de cette question d'austérité, de politique d'austérité ?
Je crois que c'est une question à laquelle Agnès pourrait mieux répondre que moi.
Mais elle le fait tous les jeudis, donc je pose la question à vous.
Mais si vous me posez la question, finalement, les dettes doivent être payées ou bien annulées. Même si les pays font banqueroute, eh bien, ils ne disparaissent pas. On a vu que la Grèce faisait faillite et la Grèce est toujours là, elle existe toujours. J'ai vu trois banqueroutes russes et la Russie existe encore. Il y a certains créanciers qui perdent de l'argent, oui, mais les créanciers sont myopes, ils reviennent.
Ils
reviennent plusieurs années après.
C'est donc une question de myopie. On peut ne plus voir une dette en économie. C'est rationnel, ça? On peut ne plus voir une dette?
Non, les dettes, comme je vous l'ai dit, soit elles sont payées, soit elles sont annulées. Et alors, il faut refaire de l'argent et on revient. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les retraités. Vous avez parlé de la réforme des fonds de pension et du système de retraite, en fait.
Oui, bah oui, c'est le nœud du problème, un des nœuds du problème.
Beaucoup d'employés, beaucoup de travailleurs français et d'étudiants devraient être conscients qu'ils ne verront pas les obligations de retraite respectées par l'État français. Simplement parce qu'il n'y aura pas d'argent. Les gens qui ont maintenant 20 ans, les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, devraient penser à des canaux alternatifs d'épargne pour eux, pour l'avenir.
Sinon, ils n'auront pas de retraite.
Il y aura toujours une petite retraite, mais si vous voulez vivre mieux, il faut épargner différemment.
Brice Couturier et Agnès Benassi-Kéré, qui bizarrement n'a pas mis ses lunettes, je ne sais pas si c'est une question de myopie ou pas derrière. Brice Couturier.
Oui, on voudrait bien avoir vos lumières d'économiste russe sur notre situation européenne, parce que les nouvelles de la presse économique de ce matin sont extrêmement inquiétantes. On nous annonce un été meurtrier dans les échos. Et l'ensemble de la presse économique est sur cette ligne en Europe aujourd'hui. Parce que vous avez la conjonction d'une crise politique à Lisbonne, qui est un pays périphérique où visiblement l'austérité n'est plus supportée, comme le disait Marx, sur le plan politique. En même temps, on a les nouvelles des États-Unis où Bernanke, le patron de la Fed, est en train de dire que les mesures exceptionnelles, les liquidités en surabondance qui ont alimenté la croissance américaine vont être retirées, que le malade va cesser d'être sous perfusion et ça sera probablement dès la rentrée de septembre. Et en même temps, on découvre que les banques européennes, les banques françaises en particulier, sont terriblement exposées aux dettes grecques, portugaise, espagnole, italienne, française bien entendu, et que par conséquent, nos dépôts ne sont pas en sécurité. Il y a sur certains sites spécialisés pour les investisseurs des avertissements sur le thème « Attention, vous risquez le haircut comme à Chypre, vous aussi haircut, en France ». Le haircut, c'est-à-dire qu'on va vous piquer 8% de vos dépôts, ou 7% ou 10% selon ce que vous avez mis en banque. Et il y a une inquiétude aujourd'hui, surtout qu'on voit que l'État français fait en sorte que les gens ne mettent pas leur argent ailleurs que dans les banques françaises. Donc tout ça entretient une espèce d'inquiétude. Est-ce que vous trouvez cette inquiétude justifiée? Est-ce que vous croyez qu'en Europe, on va vers le fameux été meurtrier ou pas?
Sergueï Gouriev.
Again, that's probably a question for Agnès.
C'est encore une question pour Agnès. Même si elle n'a pas ses lunettes, mais qu'elle vient de mettre. Mais elle connaît très bien les chiffres. Je pense que vous avez posé la question, effectivement. C'est la question. Le système bancaire, tout le monde est inquiet. Vous avez mentionné ce matin, mais c'est les investisseurs et les journalistes sont fatigués d'avoir des problèmes avec l'Europe. Mais le problème est toujours là. Les problèmes aujourd'hui sont les problèmes que l'on connaissait il y a un mois.
Rien n'a été réglé que depuis 2011, alors, pour vous.
Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de réformes, mais les problèmes sont toujours là. Et vous avez raison, il y a un scénario catastrophe quand il y a une crise bancaire dans un grand pays d'Europe et l'État n'a pas suffisamment d'argent pour aider les déposants. Donc je crois qu'il y a maintenant un consensus en Europe que même parler de coupes sombres pour les petits déposants ou de tondre les petits déposants, ben ça fait très peur. Ce que l'on a vu à Chypre, la première solution offerte à Chypre de réduire les dépôts des petits déposants, ça fait vraiment très peur. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est sorti. De cette solution.
C'est un tout petit pays aussi. Portugal, c'est plus grand et la France, n'en parlons pas.
Mais le précédent, ce serait vraiment, ça ferait vraiment très peur. Très, très peur. Mais comme je l'ai dit, il doit y avoir un règlement fiscal qui sécurise le système fiscal international, les banques, que l'État puisse venir et sauver les déposants. Mais vous avez raison. Il y a un cercle vicieux entre la dette souveraine et les banques. Les banques investissent dans la dette souveraine, donc quand l'État fait banqueroute, les banques font banqueroute. L'État garantit les banques, donc quand les banques sont en problème, c'est l'État qui doit les aider. Et tous sont absolument dans un problème à cause de cela, à cause de la Chine, entre autres.
Et ça crée, en général, des problèmes politiques très forts. Hein. C'est-à-dire, on voit bien comment les gouvernements qui veulent réguler la question bancaire, d'un côté, sont accusés, au fond, de faire la part trop belle aux banques quand même, de les renflouer, alors qu'elles s'attaquent aux petits épargnants. Ça fait un problème économique qui se double d'une question politique très importante. On le voit dans la colère et les manifestations des peuples.
Exactement, vous avez parfaitement raison. La politique, ce n'est pas facile, surtout dans les pays qui ont une dette souveraine très importante. C'est pour cela qu'il ne faut pas être myope, il faut avoir des budgets équilibrés et regarder véritablement l'avenir et tenter de rembourser la dette, évidemment.
Alors, Agnès Benassi-Kéré.
Oui, alors, je crois qu'on parle de deux choses. Hein. Il y a la crise des banques et la crise des États. Sur les banques, c'est clair que Sergueï Gouriev a beaucoup de choses à nous dire, puisque la Russie a une grosse expérience en matière de crise bancaire. Et ce n'est pas très drôle, une crise bancaire. Je voulais rassurer un peu.
Vous voulez dire quoi, attendez, par expérience en crise bancaire? C'est qu'il y a beaucoup de banques qui ont connu ce qu'on a connu aux États-Unis, qui ferment, qui font faillite.
Voilà,
et que l'État ne renfloue
pas. Que l'État ne renfloue pas. Comment on fait pour ne pas renflouer, justement? Et je voulais un peu rassurer Brice Couturier, le fait que, la semaine dernière, il y a eu un accord au Conseil européen pour la résolution des crises bancaires qui essaie de mettre un peu d'ordre et de protection pour les petits déposants, petits allant jusqu'à 100 000 euros, donc c'est quand même des petits gros. et donc pour éviter qu'on fasse un peu n'importe quoi lorsqu'il y a restructuré une banque. Maintenant, Sergueï a dit quelque chose de très
C'est-à-dire
important.
C'est-à-dire que les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros par l'Union européenne elle-même.
C'est ça la question, hein, par les États ou par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne garantit les États qui eux-mêmes garantissent les dépôts. Mais si l'Union européenne n'est pas capable de garantir les États, à ce moment-là, c'est tout le système, la pyramide qui s'effondre. Mais Sergueï a dit quelque chose de très important tout à l'heure, hein, que les investisseurs sont myopes. Et c'est vrai, ils sont myopes. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'ils sont amnésiques. Et ça nous donne un peu d'espoir. Parce qu'ils reviendront en Grèce. C'est clair qu'un jour, les investisseurs reviendront en Grèce. Maintenant, je ne voudrais pas que les auditeurs en concluent qu'on peut cesser de rembourser les dettes en France et que tout ira bien.
Moi, je trouvais rassurant l'idée qu'on puisse ne plus voir une dette. Qu'on annule une dette, je parlerai à mon banquier.
Si l'État français cesse d'honorer ses dettes, ça va être le chaos en Europe. Pour un pays comme la Grèce, on a pu construire un pont. C'est-à-dire qu'entre maintenant et le moment où les investisseurs reviendront en Grèce, il y a des financements européens qui viennent. Maintenant, les financements européens pour la France, ce serait qui, concrètement? Il n'y en a pas. Donc là, c'est vraiment... la France est un...
Alors un on va écouter notre invité. Alors, Sergueï Gouriev, quel commentaires, réactions.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une fois que vous déclarez la banqueroute, c'est le chaos. On ne peut pas emprunter pendant au moins 2-3 ans et il faut payer les dépenses fiscales. Donc si vous voulez annuler la dette ou la restructurer, si vous voulez résoudre la dette de façon ordonnée, oui, bon.
Mais
le mieux encore, c'est de ne pas avoir des grosses dettes.
Donc des budgets équilibrés.
Voilà. Oui, des budgets équilibrés, bien sûr. Mais autre chose, quand vous pensez que c'est facile d'annuler une dette, facile de faire banqueroute, mais il faut savoir qui dit que c'est banqueroute. C'est les banques françaises, ce sont des investisseurs français, ce sont des retraités français qui seront infectés, ce sont les dépositeurs, ce sont les gens qui font les dépôts eux-mêmes. Ben, ce n'est pas facile de dire, ah ben, ça y est, on annule la dette et on s'en va. Mais non, ça a un impact énorme sur les citoyens français.
D'ailleurs, on a entendu les pays arabes ou lors du printemps arabe dire, comme la Tunisie, si vous voulez nous aider, regardant vers la France, vous n'avez qu'à après tout annuler nos dettes. C'est aussi simple que ça ou pas? Ou les dettes africaines, par exemple?
Ben non, c'est pas facile. Ben, vous avez mentionné l'expérience russe. Chaque banqueroute d'une banque en Russie, ça a été une panique, un chaos énorme. Je crois que le débat sur l'austérité ne porte pas sur le fait de pouvoir annuler une dette, mais c'est de réduire les dépenses, réduire le déficit du budget de façon ordonnée et de façon continue, plutôt que de faire face à une situation où il faut tout arrêter, on ne peut plus emprunter, et là, il n'y a plus qu'une solution, c'est la faillite.
Alors, puisque je vois que Ébriss Couturier et Alice Bellasekeri ne tarissent pas de louanges à votre égard, tout de même, est-ce que vous commenteriez l'idée que, aussi, parfois, enfin, même assez souvent depuis quelques temps, on dit que les économistes nous ont tout de même, pendant plusieurs années, raconté n'importe quoi, Sergueï Gouriev, puisqu'on ne vous fait pas la critique, il y a eu cette doxa libéral de gauche, libéral de droite, dans les années 80, sous la houlette et notamment les auspices de Margaret Thatcher dès la fin des années 70 et ensuite de Ronald Reagan dans les années 80, et au fond où tout le monde s'entendait à dire que non seulement le marché apporterait la prospérité et la paix des peuples. On voit ce qu'il en est tout de même aujourd'hui. Est-ce que les économistes, certains qui font d'ailleurs une sorte de repentance, tout de même ont un rôle ou pas dans cette idée qu'il y a une sorte de faillite ou de débridage, on va dire, d'un néolibéralisme qui amène à la situation à laquelle les Américains sont arrivés, notamment il y a déjà 2 ou 3 ans.
La question, c'est est-ce que les économistes doivent se repentir? Je crois que les marchés sont toujours les moteurs de la croissance. J'ai vécu en Union soviétique, il n'y avait pas de marché, et pourtant, ils ont fait faillite. Et regardez Cuba aujourd'hui. Cuba n'est pas, il n'y a pas de croissance là depuis 50 ans. Et si vous allez physiquement à Cuba, vous allez voir à quel point ce pays n'est pas prospère. Je crois que même avec les marchés,
on a oublié la Corée du Nord, mais peut-être qu'on peut passer.
Je ne suis pas allé en Corée du Nord. Et la Corée du Nord a arrêté de donner des chiffres. Mais c'est un bon exemple parce qu'on ne peut rien faire là-bas. Par exemple, la Corée du Sud a eu beaucoup de problèmes. Il y a 50 ans, c'était semblable à la Corée du Nord. Et maintenant, les estimations, c'est que la Corée du Nord, en tant que revenu par tête, est 20 fois inférieure que celle de la Corée du Sud. D'autres disent que c'est 100 fois inférieure à celle de la Corée du Sud. Mais même avec l'économie de marché et les institutions démocratiques, il faut regarder l'avenir et penser, si vous empruntez, réfléchir à la façon de rembourser la dette. Quand vous tenez votre maison, vous savez qu'il faut faire rentrer ce que vous voulez dépenser. Et la même chose s'applique au gouvernement, finalement.
Alors nous arrivons quasiment au terme de l'émission, une question de Brice Couturier.
En termes doctrinaux, moi ça me fera beaucoup parce que je lis une langue de l'Est, le polonais, et que donc je lis ce qui se dit là-bas et ce que disent les économistes de l'école de Gdansk en particulier, j'observe un chassé-croisé intéressant entre les économistes de l'Europe de l'Est et de la Russie en particulier, qui sont extrêmement libéraux, et disons l'opinion majoritaire à l'Ouest, qui est extrêmement anti-libérale, hein, qui critique l'économie de marché. Alors évidemment, vous sortez d'une période où l'économie de marché vous n'avez pas connue, comme vous disiez, et où la misère était extrême. Et nous, on sort d'une crise qui a été provoquée par une finance débridée. Et est-ce qu'il y a moyen de s'entendre sur un commun dénominateur? Comment vous analysez ce chassé-croisé intellectuel et idéologique entre les deux Europes?
Je crois qu'il ne faudrait pas trop mettre l'accent sur le rôle de la finance dans la crise. Ça joue un rôle très important, bien sûr. Je viens d'un endroit sans marché financier, sans hypothèque du tout, et pensez à ce que serait la vie sans système financier. Toutes les innovations techniques qui sont dans ce studio, les micros, les téléphones portables, les ordinateurs, tout cela est dû non seulement au génie de l'ingénierie, mais aussi au génie financier, du capital d'investissement, des capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds mezzanines, des prêts mezzanines et des marchés financiers. Et des banques d'investissement. Donc il ne faut pas sous-estimer la prospérité que l'on voit aujourd'hui. Elle est due en grande partie à l'innovation financière. Si ça va trop loin, si ce n'est pas bien régulé, si les investisseurs sont myopes, si les emprunteurs sont myopes, bah oui, là, il y a une crise. Mais si le patient meurt à l'hôpital, ça ne veut pas dire que le docteur est mauvais. Les docteurs essayent. Les médecins, bah, certains sont mauvais. Mais ça ne signifie pas qu'il faut revenir au Moyen-Âge et se en remettre à la médecine d'avant l'ère moderne.
Merci infiniment, Sergueï Grouïev, d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, je le rappelle aussi pour votre confiance. Je voudrais remercier chaleureusement Marc Crépin, l'ancien patron de la rédaction de France Culture, aujourd'hui correspondant à Moscou, qui nous a mis sur votre voie, justement. Peut-être vous demander, question un peu aussi d'accueil et de bienvenue, est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous vous préparez à vos cours, ça y est, pour la rentrée donc à Sciences Po?
Yes, thank you very much.
Oui, merci beaucoup.
Everything is great in France.
Tout est merveilleux en France.
As they would say, what's not to like?
Qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer à Paris, surtout?
Mais, et puis surtout, cela dit, le problème, c'est que vous connaissez donc une France sans Gérard Depardieu, mais ça, personne.
We have different preferences.
On a d'autres préférences, allez.
Merci à Philippe Boy.
C'est un pays libre, vous pouvez choisir librement.
Écoutez, en tout cas, on sera ravis de vous recevoir à nouveau dans les matins de France Culture et merci aussi à Michel Jotowski. On m'a fait un reproche, si j'ai un reproche à vous faire. Certains auraient voulu vous entendre parler russe. Michel, vous pouvez le traduire en russe comme ça s'il dit quelque chose là, tout à trac? Vous parlez toutes les langues, Michel.
Merci beaucoup.